Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Théâtre de Belleville. Aujourd'hui, nous vous proposons de prendre un moment avec les artistes qui jouent en ce moment même à Belleville. Ensemble, nous allons entendre des extraits de leur spectacle, des conversations et réflexions autour de certaines thématiques liées à leur travail, ou bien la lecture de textes qui les inspirent et qu'ils souhaitent nous partager. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Grégoire Lestradic, comédien, et Thomas Pouget, metteur en scène de Vacarme, ou Comment l'homme marche sur la terre, écrit par François Perrache. Dans cette pièce, nous découvrons l'histoire d'un paysan miroir de la société contemporaine. Il était une fois, Pierre Gaillard, 16 personnages et 3 comédiens. Nous retrouvons un paysan à différents âges et virages de sa vie. Du petit garçon parfois honteux de ses origines, au jeune père, fier et plein d'espoir. Vacarme nous entraîne à l'aube des 43 ans d'un homme en lutte et fatigué. Pierre est un homme au portrait complexe qui a fait le choix, mais en était-ce vraiment un, de reprendre l'exploitation familiale avec ce que cela comporte de difficultés, de succès, d'amour et de joie. Bonjour Thomas, bonjour Grégoire, merci d'être ici avec nous. Pour commencer, Thomas, pourrais-tu nous présenter ta pièce ?
Pour resituer un petit peu, la compagnie La Joie Errante, elle est installée en Lozère. On fait ce choix-là de décentralisation qui nous amène à une succession de choix qui est notamment de créer à partir d'un territoire et avec un territoire. Donc pour le coup, Vacarme s'inscrit dans un triptyque, mais c'est le premier volet de ce triptyque qui est centré précisément sur le milieu paysan. Et il y aura un deuxième volet qui portera sur le périurbain. Et on finira certainement par un volet sur les villes, avec une base et en tout cas une ligne directive qui, à chaque fois, de déjouer les stéréotypes qu'on peut avoir autant sur la campagne que sur le périurbain ou que sur les villes. Donc pour le coup, Vacarme raconte ce qui peut se passer en milieu rural par le biais des paysans, parce qu'on s'est aperçu que, en fait, au fur et à mesure des années, avec l'exode rural notamment, avec une certaine désertification des campagnes, les paysans étaient les premiers à en souffrir. C'est un chiffre qu'on donne dans le spectacle, mais entre 1945 et 1985, en moyenne, le nombre d'exploitations sur les communes est passé de 60 à 4, ce qui est quand même énorme. Donc voilà, on a décidé de parler des campagnes, et particulièrement du milieu paysan. On voulait que ça soit l'histoire la plus universelle possible. Et pour ce faire, on est parti à la rencontre d'inséminateurs, vétérinaires, élus, banquiers, paysannes, enfin voilà, de tout type de professions qui gravitent autour du milieu paysan, pour être le plus fidèle possible à une réalité. Et après, on part du principe que la fiction, c'est la réalité avec un pas de côté. Donc une fois qu'on a cette matière-là, on fait en sorte de romancer un petit peu, ou en tout cas de fictionnaliser autant que possible, pour que ça soit pas du théâtre documentaire non plus. C'est bien de la fiction, mais c'est une vraie histoire inventée.
Donc cette histoire que tu racontes, elle a été écrite par François Perrache. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre rencontre et de votre travail à deux ?
François, on s'est rencontrés à La Tempête, à la cartoucherie, sur un stage qui mêlait Brecht et Claudel avec Clément Poiret, qui est l'actuel directeur. Et en fait, une metteuse en scène nous a pris dans un projet, on s'est retrouvés ensemble avec François. Et c'était à ce moment-là que moi, je suis revenu en Lozère. On me proposait de faire un spectacle sur la Lozère, ou en tout cas, j'ai détourné la chose en disant, en faisant un spectacle sur les campagnes. Je savais que François était touché par ce milieu-là. Il écrivait pour France Inter et France Culture. Je lui ai proposé un jour sur la route, en allant à une date. Il a dit, bah ouais, carrément, parlons-en, vraiment. Et on sait que bah voilà, c'est François aussi qui écrira la prochaine création. Ce qui est très agréable quand on travaille avec François, j'ai raconté ça à une masterclass que j'ai fait avec Claude Mathieu là, il y a un petit moment. Il a un cerveau très analytique, François. Il a un parcours aussi qui est quand même assez dingue. Il était ingénieur et puis après, il est parti bosser à Matignon. Et puis après, il a décidé d'être comédien, donc c'est venu un peu sur le tard. Moi, j'ai un cerveau analytique, mais qui est à la fois très chaud, quoi. Donc moi, j'ai besoin de faire appel à l'intuition, j'ai besoin de laisser couler les choses. Donc François a aussi ce côté chaud-là, mais on n'est pas dans les mêmes proportions, quoi. Donc régulièrement, on se freine sur des choses ou on accélère, ou en tout cas, on réinterroge tout. Mais au moins, on sait que tout ce qui est au plateau, chaque mot, chaque situation, c'est pensé, c'est réfléchi. On sait pourquoi Pierre s'appelle Pierre, on sait pourquoi Sylvie s'appelle Sylvie, on sait pourquoi c'est Jacques, on sait tout. Enfin, chaque mot est choisi et pesé. Je crois que ça assoit aussi une certaine forme de légitimité de notre part, de raconter une histoire qui n'est pas la nôtre, et de savoir qu'elle est créée à partir d'histoire réelle.
Et pour faire cette enquête dans un milieu que vous décrivez donc comme taiseux, Comment avez-vous eu les premiers contacts ?
En fait, les premiers contacts, ils se sont faits parce que Sylvain, lui, il est fils de maraîcher. Et moi, je suis fils d'exploitant agricole en mobilier tiers. Donc, en fait, ces contacts-là, on les avait depuis le début. Mais on ne voulait pas que ça soit, encore une fois, tranché. On voulait que ça soit le plus ouvert possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a rencontré une première personne que on connaissait soit de l'école et qu'ils avaient repris une exploitation familiale, soit c'était un ami des parents. Cette personne-là nous a amené à une deuxième personne, si ce n'est pas à deux ou à trois personnes. Et après, on n'a pas arrêté de faire un travail d'enquête, un jeu de pistes, où à chaque fois, on entendait par exemple quelque chose de la part de paysans. Je vais un peu vite, mais les banquiers nous ont mis dans la panade et ce n'était pas possible. On va voir un banquier en disant, on a entendu cette chose-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous réagissez, etc. Les banquiers ont apporté de la nuance en disant, on ne les a jamais obligés à signer. Encore une fois, je vais vite. Au fur et à mesure, on s'est aperçu que, par exemple, il y avait des banquiers qui nous disaient, allez voir cet agriculteur, il vous racontera une autre histoire. Donc au fur et à mesure, en fait, il y a eu un tissage. À chaque fois, on a la chance de rentrer presque des fois dans l'intimité de la vie des gens qui nous expliquent vraiment comment ils vont. C'est tellement facile de se dire tous les matins, ça va, ouais, ça va, et toi, ça va, terminé, basta. Mais en fait, on se dit jamais vraiment comment ça va, on se dit jamais vraiment dans quel état d'esprit on est. Tout va très vite. Là, pour le coup, on a le luxe, qui en est un, de monter un projet, c'est notre travail, et de partir à la rencontre des gens le temps d'une heure et demie et vraiment de pouvoir approfondir leur vécu. Évidemment, on n'est pas au courant de tout, et ce n'est pas le but. Mais quand même, on a une idée assez précise de ce qu'ils traversent. Pour les agricultrices, il y avait quand même cette sous-représentation, il y avait... moi, je conduis un tracteur, et c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que quand les autres paysans me voient conduire un tracteur, ils se disent « Oh là là, bop, 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 qu'est-ce qu'elle va nous faire ?» Alors que ça va, elle a son permis, elle sait ce qu'il faut faire, elle sait faire, quoi. Mais elle souffre de préjugés sur que peut faire une femme ou pas. Mais je ne suis pas sûr que ça soit propre qu'au milieu paysan. Et ce que tu dis est assez juste, c'est que c'est un milieu qui est très taiseux. Nous, on a la chance d'être de ce milieu-là. Donc, quand on débarque chez les paysans ou paysannes et que des gens ont dit « on est fils de paysans ou paysannes », ça aide, en fait, ça ouvre des portes. Ils sentent qu'on n'est pas hors sol, on n'est pas déconnecté de leur réalité. Et très vite, c'est ce qui s'est passé. On avait préparé des questions. Mais en fait, ces questions-là, on les a très, très peu suivies. Parce qu'à partir du moment où ils étaient lancés dans... Je ne sais pas déjà si ça va vous intéresser, mais bon, voilà mon histoire. Pendant une heure et demie, on avait tout. On avait tout. On avait les grandes joies, on avait la difficulté, on avait les complications familiales, on avait le poids de l'héritage parfois. On avait la représentation des femmes quand on interrogeait les agricultrices. Et ils finissaient en disant, je ne sais pas si ça va vous être utile. Ce qui était hyper intéressant dans la mesure... où je trouve qu'il y a une certaine illégitimité de leur part à raconter leur histoire et à penser que ça peut être intéressant. Alors que ça l'est, fatalement. On a essayé de brasser le plus largement possible. On l'a fait en Lozère, on a fait en Cantal, on a fait en Aveyron, on a fait en Haute-Loire, on a fait dans le Gers, dans le Lot. Et puis après, on a pris des avis aussi de citadins un peu partout. On a essayé de brasser toutes les générations. On est allé du lycée agricole jusqu'au grand-père, les hommes, les femmes, tout âge. On a essayé d'avoir une idée la plus globale et la plus complexe possible de ce que c'était que le monde paysan.
Là, on joue à Paris, mais on a joué beaucoup dans des fermes, jardins de cocagne, etc. Et c'est vrai qu'il y a souvent des émotions, des gens qui sont émus de voir leur histoire racontée. Et il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « c'est ma vie que vous avez racontée là ». Il y a une certaine fierté, une certaine émotion à voir leur histoire portée, racontée, partagée au grand public. Même quand on leur dit qu'on va aller la porter à Paris, il y a quand même une fierté. Et donc oui, il y a une certaine beauté à se faire se rencontrer justement à un théâtre où on raconte vraiment une histoire, on porte une parole un peu bavarde, on vient vraiment mettre des mots sur quelque chose, sur beaucoup de choses. Au début du spectacle, on dit ne cherchez pas à tout comprendre, à tout retenir, il y aura beaucoup. Et ça va à la rencontre d'un milieu où justement d'habitude on ne partage pas. Et c'est ce qui fait, je trouve aussi, la beauté du spectacle.
Et ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'il n'y a pas d'émotion, mais il y a des fois des choses, ça gronde, et au moment où ça doit sortir... tout est décuplé. Humainement, je pense que ce sont des professions qui ont une charge mentale, mais qui sont très, très, très lourdes. Très, très lourdes. On n'a pas idée du taux d'endettement, on n'a pas idée de ce que c'est que de gérer énormément, autant de choses à la fois. Et jouer avec les aléas climatiques, et jouer en même temps avec des situations familiales, et jouer avec des crises,
À un moment, il y a le personnage de Pierre qui craque sur scène, il crie. Et nous, on dit, c'est comme ça, les paysans, ça parle pas beaucoup, alors quand ça parle, ça fait du vacarme.
Il
il y a des rôles de narrateur et de narration qui viennent porter un regard et éclairer ce qui se passe de manière plus intérieure chez Pierre, qui est le paysan et le personnage principal. Et on le dit à plusieurs moments dans le spectacle, il faut pouvoir prendre de la distance, expliquer, regarder avec un peu plus de hauteur les choses pour vraiment les comprendre, comprendre que c'est complexe et savoir comment on en est arrivé là. Alors, pas pour trouver des réponses, mais pour essayer de dépeindre la situation la plus objectivement possible. Et on essaye d'expliquer après et de comprendre ensemble avec le public comment on en est arrivé là et qu'est-ce qui se cache derrière ces cris, derrière ces situations qui peuvent paraître simples, mais qui en fait sont assez complexes.
Ouais, pour faire un parallèle presque sociologique, pendant un temps, le théâtre était là aussi pour être à distance, etc. Là, je crois que l'ambition du spectacle, c'est mettre le spectateur dans une position de pas simplement assister à une représentation, mais c'est à essayer de mieux percevoir, de mieux voir. C'est essayer de prendre une situation en disant, attendez, regardez, peut-être qu'on la voit pas comme il faut, on peut essayer de la voir différemment, on peut essayer de percevoir la chose différemment. Le spectacle commence par cette chose-là, en disant « voilà la scène qui vous est exposée, mais voilà ce qu'on ne voit pas, et voilà ce qu'on peut arriver à deviner derrière des phrases, derrière des mots ». Donc c'est pas tant une politique du dévoilement gratuit, c'est arriver à mieux voir.
Et donc nous, au plateau, on voit trois personnages, Jacques le grand-père, Pierre le père et Nicolas le fils. Pourquoi avez-vous voulu illustrer le monde paysan à travers ces trois personnages ?
L'idée de ces trois générations qui sont représentées au plateau, c'est aussi trois époques. C'est que le grand-père, pour le coup, lui, a subi notamment la crise laitière. Le fils a dû reprendre une exploitation presque malgré lui. Et se pose la question de la transmission avec le petit-fils. C'est aussi se dire que ces trois générations-là, elles arrivent à cohabiter malgré des difficultés, malgré aussi des moments de tension, avec des grandes joies de temps en temps qui sont partagées. Mais c'est quelque chose qui est revenu très souvent aussi dans les interviews qu'on a menées et les témoignages. Le milieu paysan est un milieu qui est quand même dominé par le patriarcat. Donc c'est en train de se démocratiser, c'est en train de s'ouvrir aux femmes, aux paysannes, mais il y a quand même une sous-représentation des femmes qui tend, j'espère, à disparaître au fur et à mesure. Mais on voit bien que dans les familles, ne serait-ce que sur la génération de Jacques, le grand-père, clairement, déjà le statut de conjointe d'exploitant agricole n'existait même pas à son époque, puisqu'on parle des années 70. Et puis en fait, la femme servait le café, elle faisait la vaisselle, elle gérait un peu de compta, mais il faut savoir aussi que déjà, à l'époque, il y avait moins de contraintes administratives qu'aujourd'hui. Mais il y avait aussi l'éducation des enfants assurée, il y avait toute cette chose-là. Donc, je veux dire, c'était l'homme qui travaillait. C'est une réalité, c'est pas, j'invente rien. Les choses ont commencé à bouger aussi petit à petit avec la génération de Pierre, qui est née dans les années 70-75. Ça a bougé, mais encore une fois, c'est long, c'est très très long. Et puis, Pierre a 43 ans dans la pièce. Le nombre de gens qui ont 43 ans dans le milieu paysan et qui sont encore dans un système patriarcal, ce ne sont pas des cas isolés. La génération de Nicolas, qui pour le coup est plus jeune, je pense qu'elle remet en cause cette chose-là, et il était temps. Donc ces trois générations-là, oui, c'est aussi trois époques différentes, c'est rendre compte de comment est-ce qu'on porte cet héritage-là d'une génération à une autre, est-ce qu'on choisit de continuer à prendre cet héritage-là, à le perdurer, est-ce qu'au contraire on aspire à un transfuge de classe, est-ce que...
Oui, en même temps, il y a trois générations qui, du coup, ont des codes qui évoluent, qui sont différents, et en même temps, qui font face, j'ai l'impression, aux mêmes problématiques, que ça concerne la profession d'un point de vue plus technique, mais aussi sur la question de la place des femmes, justement. Il y a plusieurs fois dans le spectacle où on dit que les femmes dans l'agriculture brillent aussi par leur absence, et que c'est un milieu dans lequel il n'y a pas de femmes, où il y en a peu, et la question de la solitude des paysans... c'est aussi une question qui revient et qui traverse les générations, et on le voit aussi dans les différentes femmes qui sont représentées dans la pièce. Il y a des conflits de couple, que ce soit chez le grand-père, donc on parle de la mère de Pierre, qui en gros, on le comprend pendant la pièce, n'était pas heureuse, c'était compliqué, mais elle n'avait pas tellement le droit de le dire. Sylvie, qui est la femme de Pierre, elle aussi, elle est malheureuse, sauf qu'elle, pour le coup, elle part, et elle commence à refaire sa vie ailleurs. Nicolas, encore une fois, on ne sait pas encore ce qu'il adviendra, mais du coup, c'est quand même les mêmes problématiques qui se répètent de génération en génération, avec une manière de les traiter qui sont différentes, parce que justement, les mœurs évoluent et les habitudes aussi, quoi.
Et donc, la génération de Nicolas est-elle là pour illustrer cette nouvelle génération d'enfants de paysans qui s'autorisent à rêver autrement ?
Oui, il y a une génération, de toute façon, il est temps qu'ils rêvent différemment, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, même s'il y en a qui suivent cette filiation-là. il y a quand même des parents qui disent mais ne reprends pas la ferme, ne reprends pas la ferme. Donc moi j'ai été en tout cas plutôt dans ce schéma-là. Il y a une génération, pour parler de Nicolas, il y a une génération qui se pose des questions sur reprendre, pas reprendre. Mais de la même manière qu'il y a une génération aussi qui n'est pas forcément du milieu paysan et qui dit tiens, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire.
Oui, et puis en fait, je trouve que ça illustre une génération qui se pose de manière générale, hors milieu paysan, des nouvelles questions. Et en fait, encore une fois, les mœurs évoluent, la société évolue. Et Vacarme, en fait, c'est une pièce qui parle de l'agriculture, qui parle du monde paysan, mais qui, à travers cette thématique-là, évoque plein de sujets différents. La place des femmes, les rapports entre les générations, la question même du couple, avec Pierre et Sylvie, qui ont leur histoire d'amour qui est compliquée. Les problèmes professionnels, en fait, ça brasse plein de questions plus universelles, ça parle d'humanité d'une certaine manière. Et en fait, je trouve que cette évolution de génération, là, on la voit dans le milieu paysan, mais elle reflète une réalité qui est celle qu'on connaît un petit peu aujourd'hui, que ce soit dans les deux sens, comme dit Thomas, à la fois des gens qui sont du milieu paysan et qui se disent « non, c'est pas ça que j'ai envie de faire », et à l'inverse, mais même des gens qu'on rencontre, on a rencontré la semaine dernière, une jeune fille qui a fait Sciences Po Paris, qui a fait des études supérieures poussées, littéraires et politiques, et qui a fait le choix de s'installer sur un terrain agricole à 15 avec des amis pour monter une exploitation. Donc, dans les deux sens, en fait, je trouve que c'est une génération qui s'autorise des changements et de rêver, de se questionner, encore une fois, en alliant émotion et réflexion pour faire ce qui nous apparaît sensé, quoi.
C'est rigolo parce que l'agriculture et la culture, bon, ont quand même la culture en commun. Et on s'est aperçu qu'il y avait plus de rapports qu'on ne le pensait. Si on remonte à plus de 2000 ans, le dieu quand même des Grecs, Dionysos, était à la fois le dieu des vignes et à la fois le dieu du théâtre, quoi. C'était par le biais des vendanges, par le biais de la fête, par le biais de l'agriculture, qu'on arrivait à amener de la culture. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Jean de La Fontaine.
Merci beaucoup Thomas et Grégoire pour ce moment passé avec nous. On peut retrouver Vacarme au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 novembre, tous les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 21h15. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous, amis auditeuristes, de nous avoir écoutés. Nous espérons vous accueillir très bientôt au Théâtre de Belleville.